La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Jamais les lignes des politiques en matière de drogue n'ont autant bougé que ces dernières années. Pourtant, en Belgique, le gouvernement fédéral l'a écrit dans sa déclaration de politique générale. En ce domaine, ce sera tolérance zéro. Consommer de la drogue reste donc un délit criminel dans ce pays puisque le code pénal prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison.
Libre Ensemble, Pierre Schoenbrodt, Jacques Mizin.
La loi du 24 février 1921 interdisant la consommation et bien sûr le trafic de drogue aura donc bientôt 100 ans. Faut-il la changer, la moderniser ou tout simplement l'effacer du code pénal? Et si oui, pourquoi? Telles sont, entre autres, les questions que nous allons nous poser ce soir avec vous, Peter Moissot. Bonsoir. Je suis vraiment ravi de vous accueillir dans ce studio car vous n'êtes pas un invité comme les autres. En tout cas, c'est mon avis. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous passer la main en vous proposant de vous présenter vous-même. Peter, qui êtes-vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, je suis Peter. Je suis commissaire divisionnaire de la police locale dans une zone de police à hauteur d'Anvers, où j'ai travaillé pendant 11 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans la gendarmerie. J'étais commandant second de la BSR d'Anvers et j'ai aussi travaillé dans les unités spéciales à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai battu la guerre des drogues, mais j'ai aussi perdu mon frère à cause de l'héroïne et de la cocaïne il y a 11 ans. Et à un certain moment, je me suis mis à réfléchir, penser, lire des choses, parler avec des gens. Et avant, je croyais que la politique de la répression était la bonne. Mais maintenant, je me suis changé d'avis. Disons ça pour...
Et ça, ce qui est arrivé à votre frère, son décès suite à une overdose qui vous a vraiment fait changer complètement d'avis?
Ah ben oui, jusqu'au moment où il est mort, je croyais que l'existence d'une peine ou d'une sanction peut être assez motivant pour lui pour arrêter d'utiliser ces drogues. Et le moment où il a décédé, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est vraiment final. Et là, on commence à réfléchir. Est-ce que cette politique a une façon ou une autre nous aider? Et je dois dire, toutes les questions que je me suis posées, la réponse était négative.
Ça veut dire que vous considérez que quelque part, cette politique de tolérance zéro, cette guerre à la drogue, a condamné deux fois votre frère pour finalement aboutir à son décès? Vous pensez qu'elle est en partie responsable de son overdose?
Ouais. C'est pas les drogues qui l'a tué, c'est la politique des drogues qui l'a tué.
De quelle manière?
Je vais vous donner un exemple simple. Donc la loi de 1921 prévoit que faciliter la consommation des drogues, par exemple, par fournir un local, te rend un criminel. Donc, il y a trois infractions qui sont inscrites dans la loi. Et mon frère, nous, comme famille, nous étions obligés de le jeter dehors parce que le moment où il consommait ses drogues chez nous, dans un environnement sain et sauf, on pouvait nous poursuivre. Donc ça, c'est un peu très bizarre. Donc au moment où mon frère était dans une situation très vulnérable, il était dépendant de ses drogues, on était obligé de le jeter dehors. Donc finalement, il a décédé dans la rue, sans abri, parce que dans la loi, il y a un article qui dit fournir, faciliter la consommation des drogues te rend criminel aussi.
En fait, cette politique anti-drogue, cette guerre à la drogue, condamne quelque part les consommateurs à une vie clandestine.
Évidemment, évidemment, oui. Oui.
Et ça, cette vie clandestine, Bruno Valkeners, qui est à la droite de Peter Smeysson, est notre second invité. Cette vie clandestine, là où vous travaillez, à l'ASBL Transit, vous devez y faire face tous les jours. Donc l'ASBL Transit situé à Scarbeck est un centre d'hébergement pour consommateurs de drogue. Et vous, cette guerre à la drogue, finalement, vous assistez à ses conséquences au balcon tous les jours.
Oui, tous les jours, effectivement. Enfin, on est un centre d'accueil basse-œil, ça veut dire qu'on met très peu de conditions pour avoir accès à nos services. Donc, il faut pas avoir de papier, pas être couvert par la mutuelle. Vous avez accès de toute façon gratuitement à tous les services. Donc, on est confronté quotidiennement pas seulement, mais en grande partie au pire scénario de la consommation de drogue, c'est-à-dire qu'on a, c'est une consommation qui amène des problèmes, qui s'ajoutent à d'autres problèmes, notamment des personnes qui vivent dans la rue sans domicile fixe, etc., ou qui ont eu des parcours en prison assez lourds, qui sortent de prison ou qui sont en congé pénitentiaire. On est face à des populations qui, effectivement, en général, ont une certaine carrière de consommation et ont déjà subi pas mal les affres de la répression, notamment.
Alors, ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes qui viennent frapper à la porte de transit sont donc évidemment bien sûr des consommateurs de quelque drogue que ce soit, hein, alcool en ce compris, et ils sortent tous de la rue en fait. Hein.
Tous non, mais
une bonne partie,
c'est aussi un de nos publics cibles. Donc forcément, à partir du moment, c'est assez simple aussi la raison. Si vous n'êtes pas couvert par la mutuelle ou que parce que vous sortez de prison, vous n'avez plus de domicile, une adresse et plus de carte d'identité, vous n'avez par exemple pas accès à un traitement de substitution. Et donc ces gens vont forcément venir chercher de l'aide chez nous. Nous, on peut remettre leur situation administrative en ordre et les réorienter ensuite vers un parcours de soins plus classique, quoi.
À vos yeux, cette criminalisation des drogues en Belgique a-t-elle donné le moindre résultat en presque 100 ans ?
Franchement, en tout cas, nous, dans notre réalité quotidienne, non. La criminalisation rajoute des problèmes aux problèmes. Comme le disait Peter, parfois on tend la main vers des personnes qui veulent s'en sortir, mais le système de criminalisation fait que ça va être très difficile de s'en sortir. On leur met des conditions, par exemple, pour des probations tellement élevées, par exemple d'avoir un domicile, ils peuvent pas en avoir, ils ont pas les moyens, que voilà, c'est des choses qui compliquent énormément la tâche des travailleurs sociaux qui font du mieux qu'ils peuvent pour essayer de remettre les personnes sur une voie sur du plus long terme, quoi, de réinsertion. Donc il y a plein d'aspects. Il y a le produit en tant que tel qui est frelaté parce que, comme le disait Peter, on est dans la clandestinité, que c'est du trafic de drogue. Il y a aucun contrôle sur les produits, donc en termes d'impact, en termes de santé, c'est déjà énorme. Et puis il y a toute une culture. C'est forcément la criminalisation amène des stigmates. On véhicule une image de la consommation dont certains souffrent, même eux-mêmes. Il est difficile dans un contexte où est souvent brandie plutôt la peur comme mesure de prévention des drogues, de même en tant que consommateur, de pouvoir admettre son problème et surtout d'aller parler de son problème ouvertement en poussant la porte d'une institution. Malheureusement, beaucoup poussent la porte parce qu'ils sont parfois contraints, forcés par le système judiciaire, etc. Mais ça ne facilite pas ni la prise de parole en termes de prévention, ni le fait de pousser une porte parce que eux-mêmes, stigmatisés depuis très longtemps, parce que nous on est sur des parcours, hein, la moyenne d'âge c'est 30-35 ans, c'est pas des gens qui initient leur consommation, souffrent même des représentations et des rejets qu'ils ont pu avoir, et donc c'est pas toujours facile de venir parler de sa consommation, même quand il y a une relation de confiance.
Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'un autre Bruno, celui-là est passé par transit. Il a 44 ans et il a vécu un trajet extrêmement douloureux. Je vous propose de l'écouter.
Je sortais de prison sans logement, sans revenu, sans boulot, sans occupation. Sur ça se greffe la dépendance psychologique du produit qui n'a pas été traité. Donc on va de suite, malheureusement, se retrouver exclu par la force des choses et avoir tendance à reglisser vers le milieu dans lequel on a évolué. Et la marginalité et la consommation de drogue, quoi. Oui, voilà, c'est comme ça que ça repart pour un tour.
Au final, tu auras passé combien de temps de ta vie en prison ?
20 ans. 20 ans, plusieurs peines, hein, pas d'un coup, mais... 20 ans de ma vie en prison. Oui, c'est pénible, c'est lourd. C'est lourd. C'est surtout improductif.
Comment tu vois l'avenir ?
je ne vois pas l'avenir. Je n'ai pas, pour le moment, je n'arrive pas à me projeter déjà demain, c'est déjà difficile. C'est très très difficile. L'impact de ces 20 années de prison, c'est une ce qu'on appelle maintenant l'institutionnalisation. Quoi.
Peter, une réaction à ce témoignage, 20 ans de prison?
C'est dur, hein? Qu'est-ce qu'on a atteint avec... Je ne sais pas pour quelle raison il a été envoyé en prison, mais si c'est seulement pour la consommation des drogues, qu'est-ce qu'on a atteint avec une incarcération de 20 ans d'une personne? Et comment il en est sorti? Puisqu'il est maintenant mieux qu'avant. Il faut savoir que l'usage des drogues dans une prison est multiplié par 4. Donc si on ne réussit même pas à avoir une prison sans drogue, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que la société soit sans drogue? Donc mettre des gens avec une dépendance des drogues dans une prison, je ne pense pas que ça va résoudre beaucoup. Et c'est surtout la thérapie la plus chère. Raison, ça coûte beaucoup à la société. Et quel est le résultat de cette thérapie?
Et vous, Peter, et vos collègues policiers, est-ce que c'est une mission facile que de faire respecter la loi de 1921?
C'est du travail facile pour des policiers, oui. Et ça, c'est une raison pour laquelle il y a peu de critiques de la police. Mais il y en a beaucoup de policiers qui sont bien consciencieux que ça ne résout rien du tout. Si on arrête un dealer, il y en a 3 qui se présentent. Donc c'est une opportunité. Le marché est si lucratif que le moment que tu arrêtes un dealer, il y en a au moins 3 qui se présentent. Donc le long où il y a une demande, il y aura une offre.
Et pourtant, vous dites que ça reste un travail facile, mais pourtant, vous êtes dépassés, les policiers doivent être dépassés par ces phénomènes de drogue. Je lisais l'Observatoire européen des drogues, chiffre à 22,1 millions d'adultes européens qui ont consommé des drogues, enfin, soit 6,6% de la population. Bon, en Belgique, je n'ai pas trouvé les chiffres, mais ils sont vraiment assez élevés, en tout cas suffisamment élevés que pour provoquer une surcharge de travail considérable, non?
Ah ben oui, mais ça c'est la raison pour laquelle c'est si positif pour le management de la police. On peut travailler là-dedans, on va faire des arrestations, des confiscations, et on aura des chiffres pour aller aux politiques et demander plus de capacités, plus de l'argent. Donc, comme organisation, c'est un travail très utile.
Mais qui ne vous satisfait pas?
Ça dépend comment on voit la position de la police dans la société. Est-ce qu'on est là pour avoir de bons chiffres ou est-ce qu'on est là pour protéger tout le monde et fournir la protection de tout le monde, aussi les plus vulnérables? Et si tu regardes et on parle toujours des gens qui sont dépendants, les 10% des consommateurs, enfin des gens qui consomment des drogues qui ont une consommation problématique. Mais 90% n'a aucun problème. Ils consomment des drogues les samedis ou les vendredis soirs pour se relaxer, pour mieux prester, pour peut-être un peu d'automédication, mais ils n'ont pas un usage problématique. Donc, on focalise surtout sur les 10%. Mais il faut s'imaginer que le samedi soir, tu vas sortir avec des copains. Et un de vos copains a peut-être quelques grammes de cocaïne chez lui. Tu es dans notre base de données de la police pour toute la vie. Si tu vas solliciter pour une fonction dans le domaine public, comme fonctionnaire, n'importe quoi, on va faire une recherche dans notre base de dates et tu seras connu pour des délits de drogue. Ça aussi, ce sont des conséquences dont on ne parle pas assez, à mon avis. Mais quelle était ta question initiale?
Alors, la question initiale, je vais surtout la poser maintenant à Bruno pour revenir un petit peu en amont au témoignage de l'autre Bruno, ce consommateur de 44 ans qui a passé 20 ans de sa vie en prison. Vous êtes donc chargé de communication à la SBL Transit. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi un consommateur de drogue comme Bruno en arrive à passer 20 ans de sa vie en prison?
Je connais pas tout le dossier, mais voilà, c'est... C'est un, un moyen de levier, la politique en matière de drogue. C'est-à-dire que, en gros, vous commettez une première infraction et le parquet décide de vous poursuivre. Éventuellement, vous ne serez pas condamné ou vous aurez un sursis. Mais tout ça est écrit, comme le disait Peter. Vous avez une période où vous pouvez plus commettre de délit. Il suffit qu'à ce moment-là, vous commettez un délit qui est lié à votre consommation ou une circonstance aggravante. Alors, c'est pas seulement la détention, mais ça peut être d'avoir acheté pour aussi un ami. Et donc, vous aurez comme circonstance aggravante le deal. Vous repassez devant le juge et là... on décide qu'à un moment donné, il faut vous punir parce que vous avez commis deux délits. Et alors, à ce moment-là, c'est la somme des deux délits qui va faire que vous aurez une condamnation. Alors, parfois, on peut avoir quelques sursis comme ça, les uns après les autres, jusqu'au moment où le couperet tombe. Et on peut purger parfois des peines d'un coup de 6 ans de prison. Et donc, je suppose que dans le cas de Bruno, il a eu, il le dit lui-même, pas d'un coup 20 ans, mais plusieurs peines. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle infernal. C'est-à-dire que... une personne qui est dépendante, parce qu'il faut resituer ce qu'est la dépendance, c'est-à-dire que une personne qui est dépendante, c'est qu'il a besoin de son produit parce que son corps lui demande son produit. Je prends une dépendance à l'héroïne, c'est-à-dire que beaucoup d'usagers, ils sont conscients qu'à un moment donné, ils font pas du bien à leur santé, mais ils peuvent pas s'en empêcher de consommer. Donc, au moment où ils vont sortir de prison, ils, comme je le disais, ils n'ont pas plus de couverture sociale. Comment ils vont s'approvisionner en produits de substitution? Ça va être plus compliqué de trouver le produit de substitution que de trouver de l'héroïne dans les endroits qu'ils connaissent depuis longtemps. Vous vous retrouvez de nouveau dans le même contexte, alors il faut trouver de l'argent pour acheter l'héroïne, vous commettez éventuellement un larcin ou vous vous mettez en acolyte avec une autre personne, vous décidez de vendre un peu d'héroïne pour vous payer votre consommation. Là, pas de chance, vous êtes contrôlé, vous venez de sortir de prison, boum, vous êtes fiché, quoi. Vous faites partie de cette catégorie qui à la fois a une consommation problématique en termes de santé, mais alors qui va être considérée par un juge aussi en termes de comportement et vous constituez un risque pour la société. Et donc on décide de vous enfermer et quelque part. Les peines sont aussi très lourdes parce que il y a une culture de dire on condamne aussi pour faire un exemple. C'est-à-dire que on donne une grosse peine pour que ça fasse un exemple à la société et que ça décourage éventuellement les autres de consommer des produits. C'est quand même des peines très très lourdes. Hein. On est dans des délits avec des peines extrêmement lourdes au pénal. Quoi. C'est là qu'on traite quand même les délits et les crimes les plus graves. Et ça, c'est une option qui ne correspond pas au discours politique ambiant qui dit pourtant soigner plutôt que punir, quoi.
Mais quand un juge donne du sursis et donc ne condamne pas pour la première fois un consommateur et donne la possibilité à la personne de soigner, on va dans le mauvais sens à votre avis? C'est une faussette, c'est une fausse bonne idée?
Mais on va dans le mauvais sens peut-être depuis le début, c'est-à-dire que l'épée de Damoclès de la justice, moi je pense que sincèrement dans un processus thérapeutique, la menace d'une sanction n'est pas un moyen approprié on le disait tout à l'heure, d'une part de mettre la personne en confiance, de casser les barrières, de pouvoir faire un travail sur du long terme avec des perspectives. La dépendance c'est quelque chose de très compliqué, les consommations sont très hétérogènes, il n'y a pas un type de consommation, il y a plusieurs personnalités, il y a le contexte qui joue. Et donc, ça va peut-être, la menace peut marcher sur certains individus, comme l'abstinence peut marcher sur certains individus, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, on pense, nous, qu'il faut une panoplie la plus large possible d'assistance. Et il faut pouvoir accepter aussi qu'une personne que l'on traite qui va mieux puisse rechuter à un moment donné, mais si c'est que passager et qu'il peut de nouveau aller mieux après, c'est déjà une victoire. Il ne faut pas penser qu'avec les problèmes de dépendance sévères, il y a une recette miracle, il n'y en a pas. Ça peut se travailler sur du long terme, et c'est pas parce qu'une personne ferait à un moment donné une rechute que tout son processus de réhabilitation est foutu au placard. Ça fonctionne pas comme ça. Quelqu'un qui a une consommation extrêmement problématique, c'est-à-dire compulsive, qui peut pas s'empêcher de consommer, qui consomme beaucoup et qui est souvent polytoxicomane, cocaïne, héroïne, alcool, etc. Si à un moment donné, en tant que travailleur, vous pouvez l'amener déjà à se stabiliser, et qui vous dit « Oh, je consomme encore de temps en temps, un week-end », mais c'est une victoire énorme, évidemment, parce que vous êtes passé d'une situation où il contrôle absolument plus rien et donc ne peut même plus envisager une vie sociale normale, à une situation où il peut très bien retrouver du travail, se réinsérer dans la société, avoir un logement et de temps en temps consommer. Donc voilà, il faut adapter le processus d'accompagnement, voire thérapeutique, en fonction de la personne.
Peter, je reviens vers vous, qui êtes policier à Anvers. On l'a bien entendu en vous écoutant tous les deux. Je pense qu'on est aujourd'hui quasi forcé de faire évoluer ce modèle. On ne peut plus rester dans cette loi. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis ?
Ben, je pense que c'est très important d'informer les gens, parce que les politiciens vont bouger au moment où la voie publique commence à se bouger. Maintenant, les gens ne sont pas informés. Nous sommes indoctrinés. Et certains politiciens occupent la démagogie et utilisent des clichés, des one-liners qui sont là depuis des années 70. Le président Nixon a déclaré le war on drugs pour des raisons particulières. Ces soldats qui allaient retourner du Vietnam, et on avait entendu des rumeurs qu'ils étaient tous dépendants de l'héroïne et de l'opium. Et il y a aussi les manifestations qui étaient là pour questionner la guerre et tout ça, donc des raisons particulières, mais c'est one-liner qu'on a lancé à ce moment-là.
Facile, hein, vous voulez dire on formatait un peu nos esprits en 30 ans. Ça va être long à déconstruire, vous pensez?
Si je parle avec des gens, ça me prend 5 ou 10 minutes et tout le monde dit okay, si tu dis ça comme ça, ok, maintenant je comprends. Il faut toujours faire la comparaison avec les marchés légaux. Et si tu commences à parler utilisant les marchés légaux, ça devient très clair. Pourquoi est-ce que parce que Bruno a parlé de cette sable de Damoclès, la menace d'une peine. Disons que je bois 20 litres de coca par jour. Personne ne va dire que c'est bon pour ma santé. Mais est-ce que la menace d'une peine va me motiver pour ne plus boire du Coca-Cola? On peut dire peut-être, mais est-ce que ça c'est la politique? Peut-être il y a une autre raison pour laquelle j'ai besoin de 10 litres de Coca-Cola. Et ça c'est aussi, surtout avec les consommateurs de drogues illégales, problématique. Il y a souvent une problématique complexe qui est la raison pour cette consommation problématique.
Alors c'est un débat intéressant qu'on mène là en ce moment, mais finalement un peu éclipsé par le seul débat qui existe sur la drogue en ce moment, c'est-à-dire celui sur les salles de consommation. Est-ce qu'un jour on osera plus généralement et publiquement parler de ce projet, de ce sujet qui fâche, celui de la décriminalisation des drogues?
La décriminalisation des drogues, c'est pour moi, ça ne suffit pas. Donc, il faut régler tout le marché. Donc, mettre sous contrôle légal, ça veut dire qu'il faut légaliser tout. Mais ça ne veut pas dire que toutes les drogues sont là pour tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Donc, la réglementation légale, ça veut dire que le gouvernement, l'État, va avoir des règles qu'on peut maintenir, qu'on peut contrôler. Maintenant, le marché est là dans les mains des criminels. On peut jamais régler un marché qui est dans les mains d'un monde criminel.
Ah, ça c'est intéressant, Bruno Valkeners de l'ASBL Transit, centre d'hébergement Basseuil pour consommateurs de drogue. Décriminaliser les drogues ne veut pas nécessairement dire que tout le monde peut faire tout, n'importe quand, n'importe comment. C'est pas du tout ça l'idée.
Décriminaliser, avec ça on n'organise rien, comme le disait Peter, il parlait plus de régulation. Mais non, en fait,
au fond, décriminaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du code pénal.
Ça veut dire sortir du code pénal, un point c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne met plus de sanctions pour de la détention, de l'usage de drogue. Mais on n'organise pas l'approvisionnement, la production, la vente, la publicité, enfin, etc. Donc on reste en présence d'un trafic de drogue, un peu sur le modèle des coffee shops hollandais. L'idée de réguler, c'est de considérer ce qui est aujourd'hui illicite comme un produit licite, dans lequel on va déterminer un cadre. Alors le cadre, ça peut faire débat, il y a plein de possibilités. Mais on peut par exemple décider que on va organiser la vente dans certaines officines, par exemple, hein, avec du personnel spécialisé. On peut imposer qu'il n'y aura jamais de publicité, qu'on ne vend pas aux mineurs. On peut mettre un tas de règles qui sont suffisamment contraignantes pour que on n'ait pas cette fameuse menace que brandissent certains de la drogue partout dans les écoles. Moi, je pense sincèrement, à titre personnel, qu'on est arrivé à une situation, et on le voit bien dans ce que dénonce, enfin, ce que met en évidence l'Observatoire européen des drogues, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec notamment l'évolution en matière de chimie, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être un grand chimiste avec un grand laboratoire pour produire des drogues, on voit bien qu'il y a de plus en plus de substances qui inondent le marché. On ferme les yeux sur ces substances, on n'organise rien, on continue à prétendre que l'interdit va permettre de contrôler la prolifération de ces marchandises. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, on efface toute possibilité d'éducation. Moi, je pense toujours à ce terme de civiliser les drogues. Donc, en fait, nos enfants vivent dans une société où il y a multitude de drogues, mais il n'y a aucune éducation, aucune information objective qui leur est transmise, que ce soit à l'école ou dans la sphère familiale ou entre amis. Sauf ceux qui s'y intéressent et qui vont chercher les informations. Pour moi, ça, c'est un vrai danger. Parce que parler objectivement d'une réalité sociétale, ce n'est pas faire du prosélytisme. Je pense au contraire que garder un mur de fantasmes va plutôt contribuer à une ignorance et donc à ne pas être suffisamment blindé, je dirais, pour pouvoir être son propre arbitre par rapport à une drogue à laquelle vous serez probablement confronté dans votre vie, parce que aujourd'hui les dealers viennent vers vous, ils ont peu de respect, ils s'en fichent que vous soyez mineur, adulte ou pas adulte, ils auront même tendance à créer le manque ou à vous vendre un produit plus fort, plus addictif pour vous fidéliser, et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui, avec cette croyance que, avec la menace de la punition, les gens ne vont pas consommer, mais c'est pas du tout ce qu'on observe, et donc il faut trouver un système qui permette de civiliser les drogues. Alors comment on y arrive? Ça, c'est la main, place aux experts. C'est du débat encore à avoir.
Alors du débat, justement, il en faudra pour arriver jusqu'à la célébration de ces 100 ans de la drogue, de la loi anti-drogue, comme on l'appelle, la loi de prohibition des drogues, la loi du 24 février 1921. Vous êtes tous les deux membres de la plateforme Stop 1921. En quoi était-ce utile de créer cette plateforme? Peter, vous avez 20 secondes pour répondre à cette question.
Pourquoi c'est utile? C'est pas utile, c'est nécessaire pour informer les gens d'une façon correcte, objective, neutrale, neutre. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est nécessaire, parce que si on laisse la communication aux politiciens, on reste dans un discours moraliste et démagogue.
Et pour vous, Bruno?
Ben là, dans l'immédiat, nous, en tant qu'acteurs de santé, on voit les limites de cette loi. On le voit sur le débat sur les salles de consommation. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des salles de consommation, et c'est pas simplement des militants qui le disent, c'est des rapports officiels, des études scientifiques, des évaluations. Et on ne peut pas ouvrir une salle de consommation pour accompagner les usagers les plus précaires, parce que la loi interdit la mise à disposition d'un local. Et ça, dans une société qui veut mettre la santé en avant, c'est un leurre.
Voilà, donc la plateforme Stop 1921 a vu le jour cette année. Si vous voulez la rejoindre, ben, tout est disponible sur le net à la recherche, à l'aide d'un petit mot-clé sur des moteurs de recherche. Pour le reste, nous vous fixons aussi rendez-vous le samedi 23 juin. Ce sera le samedi consacré à l'événement Support Don't Punish, où il sera également question de ce débat sur la prohibition des drogues. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée. Bruno, encore un mot?
Oui, à l'événement Support Don't Punish, il faut venir parce que justement on va créer une salle de consommation, alors qui est plus un objectif didactique, qui sera une mise en situation qui permettra à tout le monde de venir découvrir qu'une salle de consommation, ce n'est certainement pas un lieu d'apologie ou de prosélytisme de la consommation de drogue.
Voilà, Parc Royal, samedi 23 juin.
À partir de 16h.
À partir de 16h. Bonne soirée, à la semaine prochaine.
Au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.
En quête de sens
sur la première.